En été, rien ne vaut un bon barbecue. C'est sympa, c'est festif, c'est social, c'est fraternel. Et au chapitre 18, on a vu qu'Eli était un adepte du barbecue. Aujourd'hui, dans 2 Rois 1, on va à nouveau voir qu'Eli est un joyeux trublion à la gâchette facile. Donc ils ont 2 Rois, chapitre 1. 2 Rois, chapitre 1. Et je parlerai un tout petit peu de ce qu'il y a avant. 2 Rois, chapitre 1. Après la mort d'Akab, Moab se révolta contre Israël. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre à l'étage à Samarie, et il se blessa. Il envoya des messagers en leur disant « Allez consulter Baal-Zebub, dieu des crans, pour savoir si je survivrai à cette blessure. » Le messager du Seigneur dit alors à Élie le Tishbite « Monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur « N'y a-t-il pas de dieu en Israël pour que vous alliez consulter Baal-Zebub, dieu des crans ? À cause de cela, ainsi parle le Seigneur, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, tu mourras. » Puis Élie s'en alla. Les messagers revinrent auprès d'Akazia. Celui-ci leur demanda « Pourquoi revenez-vous ? » Ils lui répondirent « Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit « Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle le Seigneur. Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zebub, Dieu des crans ? À cause de cela, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, tu mourras. » Akazia leur dit « Quelle allure avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles ?» Ils lui répondirent « C'était un homme couvert d'une toison. Il avait une ceinture de cuir autour des reins. » Alors, Akazia dit « C'est Élie, le Tishbite. » Il envoya un chef de 50 avec ses 50 hommes. Celui-ci monta auprès d'Élie qui était assis au sommet de la montagne. Et il lui dit « Homme de Dieu, le roi a dit « Descends !» Élie répondit au chef de 50 « Si je suis un homme de Dieu, qu'un feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. » Alors, un feu descendit du ciel et le dévora, lui et ses 50 hommes. Il lui envoya encore un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Celui-ci dit à Élie, « Homme de Dieu, ainsi parle le roi, descends vite. » Élie leur répondit, « Si je suis un homme de Dieu, qu'un feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. » Alors, un feu de Dieu descendit du ciel et le dévora avec ses 50 hommes. Akazia envoya encore le chef d'une troisième cinquantaine avec ses 50 soldats, ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et le supplia. « Homme de Dieu, je te prie que ma vie et celle de ces 50 hommes, tes serviteurs, soient précieuses à tes yeux. » Le feu est descendu du ciel et a dévoré les deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. « Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. » Le messager du Seigneur dit à Élie, « Descends avec lui, n'aie pas peur de lui. » Élie descendit avec lui vers le roi. Il lui dit, « Ainsi parle le Seigneur, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zebub, dieu des crans. Est-ce parce qu'il n'y aurait pas en Israël de Dieu dont on puisse consulter la parole ? À cause de cela, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, tu mourras. » Akazia mourut, selon la parole du Seigneur prononcée par Élie. Joram devint roi à sa place, la deuxième année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, car Akazia n'avait pas de fils. Le reste de l'histoire d'Akazia, ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Le roi est mort, vive le roi! On est passé très vite sur le passage où Akab est mort hier. Mais Akab est mort et son fils Akazia lui succède sur le trône. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de la semaine, j'ai parlé du livre des rois et pas des livres des rois. Parce qu'en fait, dans le texte original, il n'y a qu'un livre des rois. Mais la traduction grecque de l'Ancien Testament, qui a commencé à être faite au 3e siècle avant Jésus-Christ, a séparé en deux volumes ce livre et a fait une coupure un petit peu artificielle au milieu. Et en fait, le découpage en chapitres tombe assez mal, puisqu'en fait, le règne d'Acasia commence en 1 roi 22, verset 52, et finit à la fin de ce chapitre. Au début et à la fin, on a les éléments typiques qu'on a vus dans les résumés, les sommaires des règnes des rois d'Israël. Et donc on hérite en fait des versets, du découpage en chapitres de la version grecque. Donc en fait, j'aurais dû commencer plutôt à 1 roi 22, verset 52. Et donc de 1 roi 22, 52 à la fin du chapitre 22, on a le résumé du règne d'Acasia. C'est un résumé classique qui vient avec le règne de presque chaque roi. Et on y apprend simplement la validité du dicton « tel père, tel fils ». Dans son cas, Acasia suit l'exemple de son père et fait le mal comme lui. Et juste avant Acasia, on voit le résumé du règne de Josaphat, un roi de Juda qui a fait la guerre avec Akab. Mais je ne développe pas ça. Mais en tout cas, on va surtout s'intéresser au chapitre 1 ce matin. Et on va s'intéresser aux versets 1 à 9, centrés sur Acasia, l'impie. Au verset 1, on a une petite notice qui nous explique que Moab, un pays vassal d'Israël, s'est révolté. Donc le roi de Moab, en fait, il profite de la transition qui vient avec la mort d'Akab, et c'est toujours une période de faiblesse, les périodes de transition, hein. Donc il profite de cette transition pour se révolter. Et dans le chapitre 3, on aura l'expédition punitive contre Moab qui ne va pas totalement réussir. Et donc, ce petit verset 1, c'est juste après le résumé du règne d'Acasia. Et ça, c'est le signe que le pouvoir politique du royaume d'Israël commence à faiblir. On est dans une période où le jugement de Dieu contre la famille d'Akab commence tout doucement à se mettre en place, et ce qui aboutira au chapitre 9 et 10 à la destruction entière de la famille d'Akab. Au verset 2, patatras, Acasia tombe par la fenêtre de sa chambre comme un loser et est cloué au lit. Ouais, c'est vrai que c'est bête quand même. Sa réaction montre ce qui avait été dit dans le résumé, ce qu'il envoie un messager consulter Baal-Zebub. Il cherche, ouais, c'est un nom rigolo, il cherche du secours auprès de Baal et pas auprès de Dieu. Jusqu'ici, on avait vu que Élie était assez narquois envers les prophètes de Baal. On ne l'a pas vu, mais Michée, chapitre 22, aussi, était assez moqueur. Maintenant, c'est l'auteur même qui est moqueur avec Baal, parce qu'il fait un jeu de mots qu'il place dans la bouche d'Acasia. Baal-Zebub, ça veut dire le seigneur des mouches. Dans la réalité, Acasia a probablement dit Baal-Zebul, c'est-à-dire Baal le prince. C'est pas une moquerie gratuite en fait. Le fait de mettre cette parole dans la bouche d'Acasia, ça insiste sur l'aberration de l'action du roi. Il va demander de l'aide au seigneur des mouches. Et en même temps, ça rabaisse Baal et ça porte le même message que toute la Bible sur les idoles. Elles sont vaines, impuissantes. Et pour utiliser à nouveau une expression que j'aime bien, les idoles, c'est du flan. La sécurité des idoles est complètement illusoire. Mais le vrai créateur des mouches et de tout le reste aussi agit et va intercepter les messagers d'Akab. Et là, il y a un petit jeu avec le mot messager. Donc le mot messager en hébreu, comme en grec dans le Nouveau Testament, il peut vouloir dire soit ange, soit messager. La plupart des traductions, ce que vous avez dans vos Bibles, c'est très souvent traduit par ange. Et là, a priori, elles ont sûrement raison, c'est probablement un ange, mais j'aimais bien cette version-là, parce qu'en traduisant messager, elle retranscrit tout le jeu qu'il y a avec le mot messager. Parce que là où Acasia envoie ses messagers, Dieu envoie son messager vers Élie, pour donner un vrai message de la part de Dieu au messager d'Acasia. Le mot « envoyer » revient aussi beaucoup, c'est un peu le pendant du mot « messager ». Et ce mot envoyé, il émane de deux sources concurrentes, soit le roi, soit Dieu. Et c'est sur ça que se concentre le texte dans cette partie. Acasia, par son action d'envoyer des messagers à Baal-Zébub, a fait comme s'il n'y avait pas de Dieu en allant chercher de l'aide à l'étranger. Donc probablement, le Baal qui était à Ekron avait une réputation d'avoir des pouvoirs guérisseurs. Alors Dieu prévoit de le clouer définitivement au lit. Le règne des mouches laissant place au règne des asticots. Vous voyez, le problème avec Dieu, c'est qu'il ne dit pas ce qu'on a envie d'entendre. Et ça embête bien Acasia, qui n'a pas envie de mourir. Alors il se renseigne pour savoir qui a donné le message, et quand il comprend que c'est Élie, la némésis de son père qui s'attaque désormais à lui, il envoie des soldats le chercher. Et pas un petit nombre, 50 soldats, une belle petite troupe pour chercher un seul homme. Mais c'est vrai que c'est pas si bête que ça, parce qu'avec tout ce qui s'est passé avec Élie depuis le début, il y avait un risque, honnêtement, et il n'a pas tort, puisque Élie demande à ce que le feu descende et le feu consume les soldats par paquet de 50. Alors, pourquoi Acasia envoie-t-il ses hommes? C'est pas précisé, mais on peut se douter. Pourquoi est-ce qu'il envoie chercher Élie? Le fait d'envoyer 50 soldats semble indiquer que les intentions d'Acasia ne sont pas franchement pacifiques. Acasia tient Élie pour responsable du message. C'est lui qui l'a prononcé, donc c'est lui qui est responsable. Et il pense peut-être que c'est Élie qui l'a maudit. Alors si c'est Élie qui l'a maudit, il peut envoyer des soldats pour contraindre Élie à retirer ou annuler sa malédiction. Et là encore, ça montre bien, d'une certaine façon, l'impiété d'Acasia. Parce que c'est Dieu qui est à la vraie source du message, et c'est pas Élie. Dans la suite du passage, à partir du verset 10, des versets 10 à 14, le texte se concentre à nouveau sur Élie. Le texte est centré sur Élie. Et versets 10 à 14, on ne voit plus Dieu intervenir directement. Quand je dis qu'on ne voit pas Dieu agir, c'est qu'il n'apparaît pas vraiment comme un personnage présent, comme dans la première partie du texte où il donnait des ordres. Il n'est pas le sujet d'un verbe, il n'initie pas des actions. Mais à la place, on a Élie qui initie des actions et on a toujours Acasia qui envoie des hommes. Et on voit quand même bien que c'est Dieu qui agit hein, en envoyant le feu, puisque c'est le feu des cieux, versets 10, 12, 14, et le feu de Dieu, verset 12. Mais par exemple, il n'y a pas d'expression du style « Dieu écouta Élie et le feu consuma les soldats ». C'est un peu le même schéma qu'on avait vu à chapitre 17-18. Au chapitre 17, il y avait pas mal d'ordres venant de Dieu. Et au chapitre 18, à partir du verset 2, Dieu ne donne plus d'ordres. Mais Élie prend des initiatives auxquelles Dieu répond. Mais Dieu n'était le sujet d'aucun verbe. C'est comme si la narration mettait un petit peu Dieu en retrait pour mettre bien en avant Élie. Alors il y a encore d'autres liens qui pointent vers l'épisode du Mont Carmel au chapitre 18. Le texte précise que Élie est assis sur la montagne. On n'avait pas parlé d'une montagne avant. C'est la montagne, pas une montagne, sans préciser de laquelle il s'agit. Donc, il y a des chances que ce soit une montagne bien particulière, et donc le Mont Carmel. Et bien sûr, le feu qui descend fait encore penser au feu qui descend sur le Mont Carmel. Alors bien sûr, nous qui n'avons que le mot « amour de Dieu » à la bouche, on est parfois un petit peu gêné de voir des gens se faire consumer d'une manière qui semble un petit peu arbitraire. Alors la question à se poser, c'est est-ce que c'est arbitraire? Bon, avec ce qu'on a vu sur Élie, on n'est plus surpris en tout cas. C'est encore Élie qui fait des siennes. Mais on peut aussi se demander pourquoi Élie réagit comme ça. Alors regardons bien les versets 10 à 12. À chaque fois, le chef s'adresse à Élie en lui disant « Descends !» Et c'est pas Élie qui descend, mais c'est le feu qui descend. Ça, c'est le sens de répartie extraordinaire d'Élie. Tu veux que je descende? Eh ben bim, que le feu descende. Mais c'est pas tout. À chaque fois, Élie commence par dire « Si je suis un homme de Dieu ». Ce qui pourrait suggérer qu'aux yeux d'Élie, le chef ne le considère pas comme un homme de Dieu. Il y a une remise en doute du statut d'Élie. Et là, Élie n'a pas forcément tort. Parce que si le soldat considérait vraiment Élie comme un homme de Dieu, il aurait une attitude différente. Peut-être qu'il s'agenouillerait, comme Abdias, chapitre 18, comme le troisième soldat, verset 13. Mais la façon dont les deux premiers soldats s'adressent à Élie montre que ce sont des hommes impies qui sont bien les dignes représentants de leur roi. C'est pour ça que même si le fait que la punition semble sévère, elle est juste. Ce sont des hommes impies qui méritent ce qui leur arrive. Maintenant, je complète ce que j'avais commencé à dire. Les soldats demandent de manière irrespectueuse à Élie, l'homme de Dieu, de descendre. Et ce qui descend, c'est le signe qu'Élie est bien un homme de Dieu. Cela dit, on peut quand même soupçonner chez Élie des motivations qui ne sont pas pures à 100%. En fait, en lisant Élie depuis le début, ça fait un moment qu'on peut soupçonner de manière plus ou moins claire Élie d'aimer attirer l'attention sur lui et d'être attaché à son statut de prophète, d'homme de Dieu. Dès le premier verset où Élie apparaît, chapitre 17, verset 1, il affirme qu'il se tient devant l'Éternel, couplé à ma parole qui est mise en avant. Chapitre 18, il prie que le Seigneur soit reconnu comme Dieu, mais que lui aussi soit reconnu comme le serviteur, comme son serviteur. Et donc on peut se demander, Élie est attaché à son statut de serviteur, d'homme de Dieu. Et là, c'est un peu son statut qui est attaqué par les soldats, qui ne lui donnent pas le respect qui lui est dû en tant qu'homme de Dieu. Donc cette attitude d'Élie, ça tranche quand même un petit peu avec l'humilité qu'on attend naturellement d'un serviteur de Dieu. Alors quant au troisième soldat, il a bien compris la leçon. Et il s'adresse à Élie, comme un homme de Dieu, en s'agenouillant devant Élie. Il lui demande d'avoir pitié de ses hommes. Il dit « Mes hommes sont tes serviteurs ». En même temps, il a bien compris qu'il risque lui aussi de recevoir une pluie chaude, comme les autres. Parce qu'il précise, il sait que le feu est descendu. Et il demande deux fois que notre vie soit précieuse à tes yeux. Donc pour ce soldat, on peut se demander, est-ce que c'est premièrement la peur qui parle ou est-ce qu'il reconnaît sincèrement Élie comme un homme de Dieu? L'un n'empêche pas l'autre. Et on sent à la fois la peur qui est présente, mais l'élément positif, c'est qu'il a le souci de la vie de ses hommes. Alors comment réagit Élie? On ne sait pas, parce que le messager de l'Éternel intervient. Est-ce que Élie aurait demandé à ce que le feu descende? Est-ce qu'il aurait eu pitié? On ne sait pas. Mais le fait qu'il y a cette intervention abrupte du messager, ça pourrait être pour empêcher Élie de faire descendre le feu. Alors là, bien sûr, même si ça aurait pas forcément été juste de la part d'Élie de demander à ce que le feu descende, Dieu n'aurait pas été obligé non plus de répondre aux demandes d'Élie. Il n'est pas lié par les paroles d'Élie. Mais dans cette situation-là, si Dieu ne répond pas aux demandes d'Élie devant les autres hommes, c'est le statut d'Élie qui en prend un coup. Bon alors, c'est un peu hypothétique, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'intervention du messager suggère que c'est avant tout Dieu qui a pitié du soldat. Et en fait, le soldat, dans sa requête à Élie, il souligne une question qui est très pertinente et qu'on peut se poser. Parce que par deux fois, il demande à Élie que ma vie soit précieuse à tes yeux. Et on peut vraiment se demander si la vie des autres a de la valeur aux yeux d'Élie. Parce qu'à aucun moment dans le cycle d'Élie, Élie n'a une attitude bienveillante envers quelqu'un d'autre. Et là encore, on a peut-être un renvoi au chapitre 18 avec l'épisode d'Abdias, dont j'ai beaucoup parlé, avec le jeu des groupes de 50. Au chapitre 18, le texte ne dit pas qu'Abdias sauve 100 prophètes, mais qui sauve les prophètes en deux paquets de 50. Et dans ce passage-là, Élie fait descendre le feu sur deux groupes de 50 personnes. Donc il y a peut-être là, de manière assez subtile, une mise en perspective de l'attitude d'Élie par rapport à celle d'Abias. On a d'un côté Élie, préoccupé par son statut d'homme de Dieu, qui n'hésite pas à tuer deux groupes de 50 hommes, impies certes, et l'attitude d'Abias, qui est une attitude qui cherche la vie, qui cherche à sauver, là où Élie cherche avant tout à condamner. Élie cherche la confrontation et l'affrontement. Alors c'est vrai qu'Élie prie pour que le fils de la veuve soit ressuscité, que Dieu ne lui demande pas ça, il le fait de lui-même. Mais là encore, on peut questionner la motivation d'Élie. Quand le fils de la veuve meurt, elle s'adresse avec rancœur et reproche à Élie, verset 18, « Pourquoi te mêles-tu de mes affaires, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour évoquer ma faute, pour faire mourir mon fils ?» Elle accuse Élie d'être responsable de la mort de son fils. Et dans sa prière, Élie dit « Seigneur, mon Dieu, causerais-tu du mal à cette veuve dont je suis l'hôte en faisant mourir son fils ?» Élie renvoie presque l'accusation à Dieu. Mais quel est le problème dans ce que dit Élie ? C'est que Dieu fait mourir le fils d'une femme alors qu'il est son hôte. Est-ce qu'il ne serait pas un petit peu en train de rapporter le problème à lui ? Le verbe qu'il utilise pour prier Dieu dans ce passage-là, ce n'est pas le verset « dire », c'est un verset plus fort, ça pourrait être « appeler », »,« crier ». Au chapitre 18, quand il s'adresse à Dieu, devant les prophètes de Baal, il n'utilise pas ce même mot, il utilise le mot « dire ». Donc chapitre 17, « crier », chapitre 18, « dire ». Mais les prophètes de Baal, eux, ils utilisent ce mot-là, le mot « crier »,« appeler », le même mot qu'Élie au chapitre 17. Ça va ? Donc, en fait, ça montre simplement qu'en priant pour le fils, Élie, la tonalité du verbe employé, c'est un peu comme les prophètes de Baal au chapitre 18. Alors, c'est comme si Élie cherchait à attirer l'attention sur lui dans sa prière. Donc, est-ce que Élie demande la résurrection parce qu'il a compassion, parce que la vie est précieuse à ses yeux, ou est-ce que c'est une manière de se défendre de l'accusation de la veuve ? Ou est-ce que c'est parce que là aussi son statut d'homme de Dieu est en jeu ? D'ailleurs, à la fin, la veuve va rectifier ce qu'elle a dit, va rectifier son accusation en disant qu'elle reconnaît « Tu es un homme de Dieu et la parole de Yahvé dans ta bouche est vraie. » C'est pas clair. On ne peut pas dire clairement « Élie est orgueilleux, préoccupé par son statut », mais en même temps, on a des doutes. Donc je résume, le feu descend sur deux groupes de soldats infidèles à Dieu. Donc leur condamnation est justifiée, mais en même temps, les motivations d'Élie sont ambiguës. Et l'intervention du messager de Dieu stoppe Élie. Mais cette intervention du messager nous donne aussi une information supplémentaire. Le messager dit « Descends avec lui, n'aie pas peur de lui. » Ça vient un petit peu éclairer nos interrogations. Parce que fondamentalement ici, Élie a peur. Est-ce que c'est la peur liée à la reconnaissance de son statut ? Est-ce que c'est la peur d'affronter la colère d'un roi impie ? Pas hippie. En fait, ici, ça tranche un petit peu avec ce qu'on a vu d'Élie jusqu'ici. Jusqu'ici, Élie était combatif, aucune hésitation. Là, il est beaucoup moins combatif qu'avant. En fait, ça se comprend. Ici, on est à la fin du ministère d'Élie. On sait pas précisément quand il a commencé son ministère, ni quel âge il avait. S'il a commencé son ministère au début du règne d'Akab, le règne d'Akab a duré 22 ans. Là, on est après la mort d'Akab. Élie n'est plus le prophète fougueux du début, mais il est fatigué des combats et des épreuves qu'il a menées. La dépression du chapitre 19 lui avait pas totalement fait perdre sa combativité, puisqu'au chapitre 21, il fait face à Akab avec beaucoup d'entrain. Mais ici, Élie, il a une posture défensive. Il a peur du soldat qui s'est agenouillé en lui demandant de l'épargner. Élie est désormais un prophète fatigué. Alors, comme toujours, Élie obéit à Dieu. Il suit le soldat et dit le message de Dieu. Et la surprise de ce passage, elle est ici. C'est que Élie dit exactement le message sans en rajouter, sans faire son kéké. Et ça, c'est souligné de deux manières. La première fois, versets 3 et 4, c'est... là, il y a les trois. C'est répété trois fois, versets 3 et 4, c'est le messager de Dieu à Élie. La deuxième fois, verset 10, c'est les messagers d'Acasia au roi. Et la dernière fois, c'est Élie directement au roi. C'est presque exactement le même message, ce qui montre bien que Élie a transmis le message tel quel. Il y a des toutes petites variations, mais c'est à mon avis simplement le fait qu'à chaque fois, c'est des personnes différentes qui s'adressent à des personnes différentes. La deuxième manière de souligner la fiabilité de la transmission, c'est le commentaire que fait le narrateur, verset 17. « Acasia mourut, selon la parole du Seigneur prononcée par Élie. » Et ce commentaire, il apparaît pour la première fois depuis le chapitre 17, verset 16, après le miracle de la cruche. Ça coïncide avec le fait que pour la première fois depuis le chapitre 17, verset 14, Élie annonce un message en commençant par la formule technique « Ainsi parle le Seigneur ». Deux points, ouvrez les guillemets, blablabla. Pour la première fois depuis le début du ministère d'Élie. Et ça, c'est vraiment la surprise du texte. Finalement, à la fin, Élie rentre dans le schéma classique et habituel des prophètes envoyés par l'Éternel. Bon alors, c'est peut-être parce que la dernière fois, il s'était pas mal enflammé et du coup le roi s'était repenti. Mais peut-être qu'il ne fait plus autant avec le message qu'il a annoncé. Mais c'est peut-être aussi que Élie a évolué et tiré des leçons du passé. On a vu que Élie n'a jamais désobéi à l'Éternel. Et à chaque fois que Dieu donne un ordre à Élie, Élie obéit. Alors effectivement, parfois Élie obéit en prenant des libertés, mais il obéit quand même. Élie est exemplaire. Et ici, on a l'étape finale de son exemplarité. Parce que les initiatives qu'a pris Élie, elles n'ont pas toujours eu des conséquences heureuses pour lui. Le découragement, chapitre 19, chapitre 21, il n'était pas forcément heureux de voir Acab se repentir. Finalement, peut-être qu'Élie est devenu plus réaliste. Donc vous voyez, le portrait d'Élie, qui est brossé dans ce texte depuis le début, il est un petit peu ambigu. D'un côté, il est le serviteur fidèle et obéissant de l'Éternel, qui a peut-être même tiré des leçons du passé. De l'autre côté, on soupçonne ses motivations d'être entaché d'orgueil et Élie d'être préoccupé de son statut de prophète de Dieu devant les autres hommes. Je trouve ça tellement fin de la part de l'auteur biblique de nous présenter Élie avec cette ambiguïté. N'oubliez pas, on parle ici d'un des plus grands prophètes qui a jamais existé. Nous ne sommes pas mieux. Nous sommes des pécheurs et notre service est toujours très ambigu. Est-ce que je prêche devant vous parce que je veux glorifier Dieu en proclamant sa parole et vous édifier? Ou parce que je veux qu'on voit que je suis un prédicateur génial? Ou un petit peu des deux? Je ne réponds pas parce que c'est la question que vous devez vous poser sur votre service, au GBU, dans l'Église, dans votre vie chrétienne. Interrogez vos motivations. Qu'est-ce qui vous motive? La gloire de Dieu? La soif de reconnaissance auprès des autres? Le pouvoir de la position de responsable, le fait de diriger d'autres GBUciens pendant une étude biblique, pour l'adrénaline que peut procurer une semaine d'évangélisation. Est-ce que c'est le fait de briller sur scène en chantant des cantiques de louange? Je suis assez sûr qu'il y a un mélange en nous, d'un désir sincère de servir Dieu et en même temps de se glorifier. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'attend pas qu'on soit parfait pour nous utiliser à son service. Sinon, l'Église se serait arrêtée avec Jésus. Il a utilisé Élie dans toute son ambiguïté. Et il a fait des choses extraordinaires avec Élie. Il nous utilise aussi. Et encore une fois, la bonne nouvelle, c'est qu'à son service, il nous équipe. Il nous change et il nous transforme par son Saint-Esprit. Alors soyons attentifs à nos motivations et demandons de l'aide à Dieu pour purifier nos désirs de service. À la fin du passage, Acacia meurt. C'est la conclusion du passage. Mais maintenant, j'aimerais développer un thème qui a traversé le cycle d'Élie qu'on a vu dans ce passage avec les deux groupes d'hommes, avec la mort d'Acacia. C'est un thème qui n'est pas très sexy dans notre société, le thème du jugement. On a vu plusieurs jugements de Dieu s'abattre, la sécheresse avec l'envoi d'Élie hors d'Israël, le jugement des prophètes de Baal qui sont égorgés au chapitre 19, le choix de trois hommes qui vont tuer tous ceux qui se sont agenouillés devant Baal. Chapitre 20, le prophète qui se fait manger par un lion. Puis le message de condamnation d'Akab. Chapitre 21, encore un message de condamnation pour Akab. Chapitre 22, la mort d'Akab. Ici, les soldats du roi. On avait rapidement évoqué le massacre de la famille d'Akab, chapitre 9 et 10. Il y aura d'autres choses avec Élisée aussi. Ce qu'on a ici, ce sont des exemples de la justice de Dieu qui s'applique. Et la première chose frappante, c'est que ça nous montre d'abord que le jugement de Dieu, c'est pas rigolo. Il y a du sang qui gicle, de la chair qui brûle, des cadavres qui s'empilent, des corps qui pourrissent. Le jugement, c'est pas glope. Le jugement est sévère, implacable, violent. Mais en même temps, on a vu qu'il y a aussi des délais. Il y a la possibilité de la repentance. C'est juste que dans certains cas, le jugement soit immédiat, comme le cas de ce prophète qui avait refusé de frapper un autre prophète et qui est dévoré par un lion. Et c'est ça qui serait le jugement de Dieu s'il appliquait simplement sa justice, sans patience. Mais le fait que toutes les condamnations ne s'appliquent pas immédiatement nous montre qu'il y a de l'espoir. Sinon, l'humanité n'aurait pas continué très longtemps après Adam. Dieu laisse une période de répit, des chances de s'en sortir. Il y a des messages de condamnation qui sont en même temps des appels à la repentance. Le fait que le jugement ne s'applique pas immédiatement, ça nous donne de l'espoir. Mais en même temps, le fait que le jugement ne s'applique pas immédiatement, ça préfigure aussi le fait qu'il y aura un jugement définitif, complet, absolu, où chacun sera jugé. On a vu aussi que lorsque le jugement vient, au moment où le jugement vient, il est implacable, inéluctable, définitif. Quand le jugement s'applique, c'est fini, c'est trop tard. On est un tas de cendres, il n'y a plus de recours possible. Alors c'est quoi le jugement? C'est le fait que Dieu ne laisse pas impunis les fautes. C'est la juste réaction de Dieu à l'égard du pécheur qui se rebelle face à lui. J'ai souligné que Dieu avait en horreur le péché. Si Dieu a en horreur le péché, c'est parce que Dieu est absolument, totalement, radicalement saint. Et que c'est pour ça que le jugement paraît aussi terrible. Mais c'est seulement de notre point de vue. Mais il ne faut pas essayer de se mettre à la place de Dieu parce qu'on n'y arrivera pas. Mais Dieu est tellement saint que la moindre parcelle de mal, comme refuser de frapper un autre prophète, etc., la moindre petite parcelle de mal, elle agresse Dieu. À mon avis, Dieu nous fait la grâce de ne pas ressentir entièrement le poids de notre culpabilité. Si on ressentait totalement notre culpabilité envers Dieu, la dette de notre péché, je pense qu'on se suiciderait immédiatement, tellement ce serait lourd à porter. L'évangile est aussi un message de jugement. C'est peut-être pas l'accent principal, mais il annonce aussi le jugement. Alors, le message de l'évangile avait été annoncé par anticipation par les prophètes, avec par exemple le thème du jour de l'Éternel, qu'on trouve chez plusieurs prophètes. Ils annonçaient à la fois le salut des justes et la condamnation des pécheurs. Avec la venue de Jésus, on s'aperçoit en fait que ce jour de l'Éternel se déroule en deux étapes. La première avec la venue de Jésus, sa mort et sa résurrection. La deuxième étape avec la venue future de Jésus. Et c'est à cette deuxième venue que le jugement définitif s'appliquera. Et ça veut dire que pour l'instant, on est dans une période de grâce. On est dans une période où la grâce règne avant tout. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On est dans cette période de grâce où le rôle de l'Église est d'annoncer l'Évangile pour que les gens se détournent de leur errance dans le péché et se retournent sur le chemin de la vie. Mais il y a quand même un aspect de jugement dans l'Évangile. C'est parce que le critère avec lequel les gens seront sauvés ou perdus, c'est leur acceptation ou leur rejet de Jésus-Christ. C'est ça le critère qui fait que des gens seront sauvés ou condamnés. Et c'est par l'annonce, d'une certaine manière, c'est par l'annonce de l'Évangile que l'Église a un certain rôle dans le jugement. Mais ce n'est pas à nous de prendre les armes pour appliquer le jugement de Dieu. Ce n'est pas le rôle qui nous a été donné dans cette période entre les devenus de Jésus-Christ. En particulier, en tant que pécheurs solidaires des autres pécheurs, on est pécheurs, on n'est pas meilleur que les autres, on n'a pas la légitimité d'appliquer le jugement. Le seul qui a cette légitimité, c'est le Dieu Saint. Alors on est facilement choqué. Le jugement, la condamnation, c'est une vérité difficile à avaler. On peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que tout le monde lutte avec ça, même les chrétiens? La réponse est assez simple, je pense. C'est parce qu'on est pécheur. Et en tant que pécheur, on s'aime bien. On aime bien notre péché. Et du coup, on va avoir immédiatement tendance à s'excuser, à excuser notre péché. Et donc, on va amoindrir, on va relativiser la justice du jugement qui nous atteint. Le jugement des autres nous choque aussi, surtout ceux qu'on aime bien. Et comme on les aime bien, on peut faire exactement le même raisonnement. Il y a une solidarité du péché. On se projette dans les autres, et quand on pense au jugement pour les autres, on se met à la place de l'autre, et on n'a pas envie que ça leur arrive. Pour beaucoup, le message de la croix est culpabilisateur. Alors comment répondre? Je crois qu'il y a des vrais scandales et des faux scandales à ce sujet. Alors quelques petites idées rapidement pour vous pousser à la réflexion. Ce message choque parce qu'il nous pousse à nous remettre en cause. Et dans notre société, s'il y a une chose qu'on ne veut surtout pas faire, c'est se remettre en cause. On veut se déculpabiliser, s'accepter tel qu'on est. Et c'est très bien d'être tel qu'on est, mais pas de s'accepter tel qu'on est, en particulier avec nos défauts, nos fautes et nos péchés. Là, il y a un vrai scandale de la croix. Autre réponse qu'on peut avoir, c'est que certes, Dieu est le Dieu juge et il est terrible, mais en même temps, il est le Dieu amour. Et les deux fonctionnent ensemble, et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Les deux fonctionnent ensemble, parce que si Dieu n'aimait pas, il ne serait pas en colère en réaction à notre péché. Si Dieu n'aimait pas, il serait indifférent à notre faute. Et enfin, surtout, la conséquence de l'amour de Dieu, c'est qu'il règle lui-même le problème. C'est qu'il règle lui-même notre problème en envoyant Jésus, qui est Dieu. C'est Dieu, avec Jésus, c'est Dieu qui paye lui-même le prix de notre faute. Donc, dans Actes 20, 28, il y a un verset très intéressant, on voit que c'est par son propre sang que Dieu s'est racheté l'Église. Dieu n'était pas obligé de le faire, mais il le fait quand même. Et c'est ça qui est scandaleux dans la croix, c'est que la croix nous laisse les mains vides quant à notre salut. Alors je sais que ce thème est difficile, on est tous pécheurs et on lutte tous plus ou moins avec ce message. Ce que j'espère, c'est que ces quelques réflexions vous aideront à y réfléchir, mais que surtout, ça vous motivera pour annoncer le message libérateur du Christ, mort à la croix pour les pécheurs.